Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Lors de nos journées d'entrée dans l'Avent, Père Cyril nous invitait à réfléchir à ce que nous appelons la parole de Dieu. Il y a les mots, disait-il, mais aussi les interstices vides, les espaces vides entre les mots, entre les lignes, les silences et ce qui n'est pas dit. C'est dans le silence de cet entre-deux, dans le vide sacré qui se trouve entre les mots et les lignes, que nous sommes invités à entendre l'inaudible, à voir l'invisible, à découvrir et faire l'expérience qu'en chacun d'entre nous, il y a une réalité humaine visible et une réalité divine invisible que nous ne connaissons pas. La vie, c'est d'aller à la découverte de cette part de nous que nous ne connaissons pas. Souvenez-vous, dans l'évangile de la semaine dernière, Jean-Baptiste disait « Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. » Et saint Grégoire de Nice, au IVe siècle, disait en parlant de Dieu « Ô toi, l'au-delà de tout, aucun mot ne t'exprime. » Et c'est vrai. Que savons-nous de Dieu? Que savons-nous du Christ, de l'Esprit? Notre intelligence se complaît de plus en plus dans le concret, le tangible, le démontrable, et rejette de plus en plus cette dimension intime, spirituelle, divine de nous-mêmes. Et Père Cyril posait la question qui nous concerne dans la fête d'aujourd'hui. Dans quelle mesure l'histoire bizarre d'une vierge juive donnant naissance à un garçon peut-elle prétendre avoir un vrai sens? En quoi est-ce que je suis concerné aujourd'hui? Pour certains, fêter l'Annonciation 7 jours avant la Nativité peut apparaître comme un non-sens biologique. Et croire qu'on peut mettre au monde un enfant sans l'intervention d'une partie mâle et femelle relève de l'ignorance des lois fondamentales de la vie. Cela vient heurter notre raison. Mais il n'y a pas que ça. Si vous regardez la Trinité, un Dieu en 3 personnes, ou la personne du Christ, 100% Dieu et 100% homme. Au Concile in Trullo, en 692, la date de l'Annonciation fut fixée au 25 mars. Avant 692, on fêtait l'Annonciation dans l'ère d'usage gallican, pendant la période de l'Avent, proche de Noël. C'était le 6e dimanche à Milan, c'était le 24 décembre à Ravenne, c'était le mercredi des 4 temps de l'Avent à Rome. Et de même, la fête de Noël ne prit sa place du 25 décembre qu'au 4e siècle, pour contrer la fête romaine de la naissance du soleil invaincu, Sol Invictus, où la présence du soleil dans le ciel recommençait à croître. C'était une période de grande réjouissance avec les Saturnales qui suivaient cette fête. Et une théologie du soleil de justice s'est développée à partir de cette époque. On ne savait pas à l'époque non plus que dans l'hémisphère sud, au 25 décembre, le soleil commence à décroître. En essayant de rendre les réalités spirituelles conformes aux réalités humaines et terrestres, je pense que l'on a déforcé la dimension divine, invisible de ces fêtes. On a privilégié la vision raisonnable et extérieure des événements et l'aspect intérieur et mystérieux a été de plus en plus délaissé. Ce qui conduit à une perte de sens. On ne sait plus qui nous sommes, où allons-nous, quelle est notre destinée, qu'est-ce que la vie ? Lorsqu'on prend soin de lire entre les lignes d'évangile d'aujourd'hui, on découvre justement une dimension divine dans l'acte de donner la vie. Au-delà du biologique, il y a une réalité divine que nous ne devons jamais oublier. Les premières paroles de l'ange à Marie sont un hymne à la joie, à la vie. Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Marie est émue en entendant les paroles de l'ange et se demande la signification de cette salutation. Et l'archange va lui annoncer trois choses. La première, tu concevras dans ton sein. La deuxième, tu enfanteras un fils. Et la troisième, tu lui donneras le nom de Jésus. Jésus signifie sauveur. C'est la mission que Dieu donne à son Fils, sauver l'humanité. Il reprend les termes de la prophétie d'Isaïe. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte et l'enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Et il lui annonce qu'elle est l'heureuse élue de cette prophétie d'Isaïe. Marie peut entendre ces paroles. Elles peuvent résonner en elle car sa vie n'a été justement qu'humilité, qu'écoute et que sagesse pour être pleinement au service de son Seigneur. Toute sa vie, Marie s'est consacrée à son Seigneur dès son plus jeune âge. Elle s'est offerte à Dieu. Elle s'est ouverte à la présence. Elle est montée au temple sans se retourner, c'est-à-dire qu'elle était tournée vers son Seigneur. Et aujourd'hui, c'est elle qui devient le temple de Dieu. L'humilité est dans l'ADN de Marie. Lorsqu'elle rencontrera sa cousine Élisabeth, elle lui dira « Mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a regardé l'humilité de sa servante. » L'humilité, c'est reconnaître notre propre impuissance et la nécessité de recourir à Dieu en tout. L'humilité dégage notre cœur de toute pensée orgueilleuse, de toute préoccupation, de vanité personnelle et laisse ainsi l'action divine agir en nous. Aujourd'hui, comme vous avez entendu, nous avons chanté et acclamé le premier nom divin, ô sagesse. Heureuse coïncidence que de chanter ainsi la sagesse, d'abord parce que c'est un des noms donnés au Fils de Dieu, mais aussi parce que Marie a été toute sa vie le symbole de la sagesse par son obéissance et son écoute. Un des noms de la Vierge est d'ailleurs siège de la sagesse, car elle a porté en son sein Jésus, le Fils de Dieu. Celui qui est la sagesse a choisi sa demeure dans celle dont la vie n'a été que sagesse. Et l'ange va décrire à Marie qui sera son enfant et le dessein de Dieu. Il sera grand, on l'appellera le Fils du Très-Haut, et le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob pour les siècles, et son règne n'aura pas de fin. Si Marie peut entendre l'annonce de l'ange, elle se questionne, car pour elle, être enceinte, il faut l'action d'un homme. Elle lui dit, « Comment cela arriva-t-il, vu que je ne connais pas l'homme ?» Et c'est ici que Gabriel va lui révéler comment Dieu va s'y prendre. « L'Esprit Saint descendra sur toi, et la vertu du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint qui va naître sera appelé Fils de Dieu. » Marie vit en ce jour une Pentecôte. Elle reçoit en elle la semence divine sous la forme de l'Esprit Saint. Semence divine qui pourra transformer sa vie en la faisant l'intime de Dieu. Dieu devient chair de sa chair. Mais tout cela ne devient réalité pour elle que lorsqu'elle dira oui. Oui à ce projet de Dieu pour elle. Voici la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Marie était déjà la fille aimée du Père, comme nous le sommes tous, et par l'Annonciation, elle devient l'épouse de l'Esprit et la mère du Christ, de loin, de l'envoyé. Le oui, le fiat de Marie, est la clé de notre salut. Elle répond au geste d'amour inouï que Dieu propose à l'humanité et ouvre la porte à notre divinisation. Car cette histoire n'est pas un conte de fées, mais le récit de ce qui nous arrive à tous. À chaque conception, il y a l'Esprit Saint qui vient nous visiter. La vertu du Très-Haut qui nous couvre de son ombre, qui nous prend sous sa protection. À chaque naissance, Dieu se choisit un temple, une terre promise. C'est chaque fois une création à son image, pour aller vers sa ressemblance. La vie divine nous est donnée en puissance. Mais pour croître, cette vie a besoin de notre oui, de notre adhésion à l'œuvre du Christ. Et comme toute croissance, elle ne peut se faire que si nous nous donnons une bonne nourriture, si nous nous en remettons à celui qui est la vie, qui est la vérité, qui est le chemin. C'est lorsque la parole de Dieu trouve son chemin vers notre cœur qu'elle peut pleinement s'épanouir et œuvrer à notre transformation. Nous sommes, nous, l'humanité, conçue à l'image de Dieu. Alors, ce que l'on voit aujourd'hui de notre humanité, c'est une image ternie, une image décolorée, mais qui n'est pas notre réalité profonde. Méditons sur le premier nom divin que nous avons célébré aujourd'hui aussi. Ô sagesse, toi qui es sortie de la bouche du Très-Haut, qui atteint d'une extrémité du monde à l'autre et qui dispose toutes choses avec force et douceur, viens et ne tarde pas. Viens nous enseigner la voie de la prudence et l'amour de ta beauté. Au Très-Haut soit honneur, gloire et louange pour l'éternité. Amen.